Législative 2017, deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, sur Radioactive.
Daniel Labaronne, bonjour à vous, merci de répondre aux questions de Radioactive.
Bonjour.
Vous êtes le candidat de La République En Marche à l'élection législative sur la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire. Vous avez été désigné le 11 mai dernier. Vous disposez d'un mois seulement pour faire campagne, c'est pas trop court pour défendre les couleurs d'En Marche ?
Oui, bien sûr, ça peut paraître court, mais en même temps, nous sommes là, en définitive, pour être élus afin de mettre en œuvre le contrat pour la nation d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, durant la campagne présidentielle, a présenté son programme de manière extrêmement claire. Par conséquent, c'est peut-être un peu plus facile pour nous, puisque ce programme est connu, et nous nous engageons, nous, si nous sommes élus, à mettre en œuvre ce programme.
À propos de votre désignation comme candidat d'En Marche, ça a été le choix d'une commission d'investiture très parisienne, qui a fait un choix assez opaque. Hein. Ne regrettez-vous pas un manque de transparence ou même d'engagement des militants dans ce processus ?
Non, les règles du jeu étaient très très claires dès le départ. Il y avait 5 critères qui avaient été déterminés par Emmanuel Macron. La probité, le renouvellement, la parité, le fait qu'on s'engage à mettre en œuvre le programme d'Emmanuel Macron. Ces règles du jeu étaient connues, nous les avons acceptées. Et c'est vrai que nous avons attendu avec anxiété de savoir si nous étions désignés pour l'investiture.
Des ministres de gauche, des ministres de droite, du centre et même Nicolas Hulot à travers la composition du nouveau gouvernement. Emmanuel Macron tente-t-il de tuer les vieux partis politiques ?
Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a en France un besoin de renouvellement, un besoin d'ouvrir les portes, les fenêtres et de faire en sorte que les personnes de bonne volonté, les progressistes qui veulent défendre l'intérêt national, eh bien, se mettent ensemble, qu'il y ait de l'intelligence collective et elle se trouve aussi bien à droite qu'à gauche et même chez les écologistes, bien sûr, avec Nicolas Hulot. Et c'est ce qu'a voulu le président de la République et je crois que c'est une très très bonne démarche.
L'intelligence collective, le pragmatisme, l'efficacité, c'est comme ça qu'on peut résumer vos boussoles, mais ça ne remplace pas une idéologie politique. Est-ce que vous restez un homme de gauche ?
Non, pas du tout. Je ne sais plus très bien d'ailleurs ce que ça veut dire être un homme de gauche. Moi, je pars du réel. Je sais qu'il y a des problèmes qui se posent à nos concitoyens et le politique doit apporter des réponses extrêmement précises aux attentes de nos concitoyens. La démarche d'Emmanuel Macron, c'est ça, c'est de partir du réel et à partir du réel, d'élaborer une offre politique qui répondent à ce réel, à ces problèmes extrêmement concrets. Alors, les idéologies, je crois, ont fait leur temps. Elles n'ont pas toujours montré leur efficacité. Nous sommes engagés dans une nouvelle ère politique avec Emmanuel Macron et je m'en réjouis personnellement.
Si vous êtes député, vous signerez, vous voterez toutes les lois proposées par le gouvernement ou vous aurez une liberté de vote ?
Je m'engage à mettre en œuvre le programme d'Emmanuel Macron, le contrat avec la nation sur lequel il a fait campagne et je ne serai pas un frondeur. Je m'engage à suivre, pas à la lettre, mais en tous les cas, parce que le Parlement a bien sûr son rôle pour discuter les projets de loi, pour les amender éventuellement, justement en faisant remonter du réel, de la proximité, de nos territoires, peut-être des questions qui n'auraient pas été appréhendées au niveau national. Mais en tout état de cause, je m'engage à mettre en œuvre le contrat pour la nation d'Emmanuel Macron.
Quelques mots d'actualité politique. Le gouvernement prévoit une grande loi de moralisation de la vie publique. Ça sera la première grande loi du quinquennat. C'est le signe qu'il fallait envoyer.
Oui, je crois. C'est une attente forte de la part de nos concitoyens. Et pour ma part, je serais extrêmement heureux de voter cette loi de moralisation de la vie publique.
À ce propos, Richard Ferrand, qui est ministre de la Cohésion des Territoires, est épinglé par le Canard, qui l'accuse d'avoir favorisé sa campagne. Ainsi qu'il parle également d'emploi d'un de ses fils au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ça tombe très mal.
Oui, sans doute. Je ne connais pas bien ce dossier. J'attends de voir quelles vont être les réactions des uns et des autres. Mais pour ma part, je suis en campagne, dans l'Amboisie, à Château-Renaud, à Mont-Louis, à Vouvray, à Bléré. Et il n'y a que cela qui m'importe. Aller à la rencontre de mes concitoyens de la deuxième circonscription et essayer de les convaincre qu'il faut donner une majorité parlementaire à Emmanuel Macron pour qu'il puisse engager le changement dont la France a tant besoin.
L'autre grand chantier ouvert par Emmanuel Macron, c'est la loi travail. Au-delà du texte, c'est la méthode qui fait également débat. Pour aller vite, Emmanuel Macron veut recourir aux ordonnances. Les Français, ils sont plutôt opposés. Est-ce que vous, vous soutiendrez ce recours aux ordonnances ?
Oui, parce qu'elle est éminemment démocratique. Je rappelle les étapes. Un projet de loi déposé en Conseil des ministres, un projet d'habilitation proposé au Parlement, l'examen des ordonnances, puis un projet de ratification de ces ordonnances voté par le Parlement. Donc, à différents stades de la procédure, le Parlement aura son mot à dire. Je trouve que c'est une démarche éminemment démocratique qui a l'avantage d'aller vite et de ne pas enliser les réformes qui sont absolument nécessaires, de mon point de vue, pour le changement qu'attendent nos concitoyens.
Daniel Labaronne, est-ce que En Marche aura une majorité assez large pour gouverner ou devra-t-il faire une coalition, parfois à gauche, parfois à droite ?
Nous verrons bien, nous verrons bien. Là, pour le moment, nous ne faisons pas d'hypothèse sur le résultat final. Nous sommes là, sur le terrain, tous les jours, à la rencontre des habitants de cette deuxième circonscription, pour les convaincre qu'il faut donner une majorité parlementaire à Emmanuel Macron pour qu'il engage le changement dont nos concitoyens ont tant besoin.
En parlant de la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, un mot peut-être sur le bilan de Claude Greff, l'actuel député, membre de Les Républicains. Comment vous le jugez ?
Écoutez, dans le mouvement En Marche, nous avons été habitués à être bienveillants et à ne pas dire du mal de nos concurrents. Voilà, je trouve que...
Alors, une bonne chose qu'elle a faite, peut-être, que vous
retenez. Madame Claude Greff a, de mon point de vue, a eu le courage, au moment du deuxième tour de l'élection présidentielle, d'appeler très clairement à voter pour Emmanuel Macron. C'est ce que n'ont pas fait d'autres candidats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je considère que c'est une femme qui a du cœur, qui a bien parcouru la circonscription. Et de ce point de vue, c'est une députée qui a été proche des habitants de sa circonscription. Je serais plus réservé sur son travail parlementaire.
La deuxième circonscription, c'est un territoire assez vaste, aux réalités parfois multiples. Selon vous, s'il y a une mesure très concrète qui peut changer la vie des gens, c'est laquelle ?
Oh, il y en a beaucoup, mais je pense en particulier à l'amélioration du pouvoir d'achat de ceux qui ont le plus besoin de voir leurs revenus, leurs salaires, leurs allocations augmenter pour leur permettre de consommer davantage.
La deuxième circonscription est également souvent marquée tous les ans dorénavant par le gel qui touche les vignerons ou la sécheresse qui touche les agriculteurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que député pour contrer ça, pour aider ces gens-là ?
Dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a un programme d'investissement public de l'ordre de 50 milliards. Et sur ces 50 milliards, il y a 5 milliards qui sont réservés à la modernisation de l'agriculture. Je pense que tous les dispositifs de lutte contre le gel pourraient tout à fait s'inscrire dans ce programme d'investissement. Mais je pense également que nous pourrions avoir une réflexion assez approfondie sur la question de l'irrigation de nos surfaces utiles agricoles. Parce que si le gel fait des dégâts, la sécheresse en fait également beaucoup. Par conséquent, que ce soit tant au niveau du gel qu'au niveau de la sécheresse, je crois qu'il faudra mobiliser les moyens publics pour doter nos exploitations agricoles d'instruments modernes afin de faire face à ces problèmes climatiques.
La question des fusions des communes est aussi une question importante sur la circonscription. Vous y êtes favorable ?
Alors disons que j'ai dit que face à la métropole, il fallait avoir une stratégie. Une stratégie concertée dans laquelle l'hypothèse éventuellement de rapprochement de communautés de communes pouvait être retenue. Il y en a bien d'autres. Je sais que dans le cadre du Pays Loire-Touraine, qui regroupe à peu près le périmètre géographique de la circonscription, il y a déjà beaucoup de concertations entre les responsables des communautés de communes, entre les responsables des maires. C'est peut-être à ce niveau-là que l'on peut mettre en place une structure encore mieux organisée de manière à faire face à la métropole, qui présente des avantages, mais qui présente également des risques. Et pour notre part, nous ne voulons pas être les laissés pour compte du développement de la métropole.
Deux dernières questions. Un mot premièrement sur votre suppléante, une amboisienne, Claire Michel. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, parce que Claire Michel est très engagée dans les mouvements associatifs, dans le mouvement social. Elle est conciliatrice de justice. C'est quelqu'un qui est très connu sur l'Amboisie. Et je trouve qu'elle était très complémentaire avec moi, qui a un profil plus d'économiste. Nous marchons sur nos deux jambes, comme Emmanuel Macron, qui veut libérer l'économie, mais en même temps assurer de nouvelles sécurités pour la population. Donc moi, je représente le volet économie et Claire Michel, le volet d'avantage. Social.
Dernière question, Daniel Labaronne, si vous êtes élu, vous devrez quitter la mairie de Bléret. La ville aura été en fait un tremplin pour votre carrière politique.
Oh, je ne sais pas s'il faut dire cela, parce que il y a un an, Emmanuel Macron n'était pas connu, et donc je ne me projetais absolument pas dans une perspective de député. Il se trouve que l'offre politique d'Emmanuel Macron a été extrêmement séduisante et moi j'y ai adhéré très très rapidement puisque j'ai été le premier élu d'Indre-et-Loire à le soutenir. Je resterai de toute manière un conseiller municipal de la ville de Bléret. Je continuerai à suivre les dossiers. Je serai sans doute invité au comité d'adjoints et donc je resterai vigilant et je ne manquerai à aucune occasion de me déplacer dans ma ville et d'aller à la rencontre de mes concitoyens, parce que ce sont toujours des moments d'échange, de convivialité qui me plaisent énormément et pour lesquels j'ai vraiment beaucoup de joie.
Merci Daniel Labaronne d'avoir répondu aux questions de Radioactive.
Je vous remercie. Au revoir.
Vous êtes candidat à la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire pour le mouvement En Marche.
Législative 2017, deuxième circonscription d'Indre-et-Loire sur Radioactive.